OK, on va commencer notre 22e leçon de notre série sur l'histoire de l'Église. On va regarder ce soir les précurseurs de la Réforme, et plus particulièrement John Wycliffe, qui a vécu entre 1331 et 1384. Comme nous l'avons vu, la main pitoyable de l'Église de Rome, cette Sainte Mère, comme elle se nommait, s'appesantissait partout et sur tous ceux qui ne pliaient pas le genou devant elle et qui rejetaient sa suprématie et ses doctrines antichrétiennes. Hors d'elle, point de salut, affirmait-elle. Et ce salut n'était pas le salut par grâce, mais un salut acheté par des œuvres, dispensé par les prêtres, intermédiaire soi-disant entre Dieu et les hommes, dominant les consciences et assumant pour maintenir leur prestige et leur autorité la prétention blasphématoire de transformer par des paroles consacrées le pain et le vin de la scène dans la personne de Christ, chair, sang, âme et divinité. À la tête de ce système d'iniquité qui enlaçait les âmes et qui les maintenait dans les ténèbres, le pape étendait sa domination non seulement sur le clergé, archevêque, évêque et prêtre, et sur les laïcs, mais prétendait régenter les princes, les rois et les empereurs. La prison, le fer et le feu avaient bientôt raison de ceux qui ne se pliaient pas sous ce pouvoir redoutable. Les hérétiques, comme Rome les nommait, et nomme tous ceux qui, s'attachant à la parole de Dieu, rejettent ses erreurs. Toutefois, en dépit de toutes les rigueurs, de toutes les persécutions, il y eut toujours, comme nous l'avons vu, un témoignage pour la vérité, une lumière plus ou moins brillante au milieu des ténèbres, plus ou moins pure au milieu de la corruption, des témoins fidèles, bravant tout pour Christ, et souffrant et mourant, pour maintenir ce qu'ils avaient appris de cette parole de Dieu que le clergé cachait au peuple. C'était le petit résidu de Thyatire, protestant contre les abominations de Jézabel, comme on peut le lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 24. Mais Dieu ne voulait pas que les ténèbres continuassent à peser sur le monde. Il allait susciter des hommes, ses serviteurs, qu'il soutiendrait par sa puissance contre Rome et les grands de la terre, qui remettraient en lumière pour tous sa parole, la Bible, sur laquelle il s'appuierait et qui annoncerait l'évangile du salut par la foi en Jésus. C'est le temps de cette œuvre puissante de l'Esprit de Dieu que l'on nomme la Réformation. Mais comme l'aube précède et annonce le jour, il y eut avant les grands réformateurs que Dieu suscita, tels que Luther, Calvin et autres, les précurseurs qui préparèrent la voie. Parmi eux se trouvent surtout Wycliffe en Angleterre et Jean Hus en Bohême. Nous dirons quelques mots de ce que Dieu opéra par leurs moyens. Alors aujourd'hui, on va regarder Wycliffe et après sa mort, il y a un autre groupe qui s'est développé. On les appelait les Lollards. La semaine prochaine, on va voir comment, après la mort de Wycliffe, son œuvre s'est poursuivie à travers les Lollards. Et ensuite, on va revenir sur Jean Hus, et qui est un nom très important pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a fait que le terrain était préparé quand les réformateurs sont arrivés, par toutes sortes de moyens. Alors, on va commencer par parler du pré-réformateur John Wycliffe. Alors, on a vu comment l'Église de Rome réussit à se soumettre peu à peu l'Angleterre. Elle y domina longtemps, non sans qu'il y eût des protestations contre sa suprématie et des efforts faits contre l'autorité qu'elle s'attribuait même sur les rois. Plus d'un conflit eut lieu entre le pouvoir royal et la papauté. Le premier résistant à la prétention du pape d'être le suzerain du roi, qui n'aurait été que son vassal, mais l'Église n'avait rien perdu de son ascendant sur le peuple. Avant que Wycliffe parût sur la scène, il y avait eu en Angleterre des évêques même qui s'élevèrent contre la tyrannie de Rome. Parmi eux, un des plus remarquables fut un évêque de la ville de Lincoln, Robert Gross Test, qui vivait dans la première partie du 13e siècle. Il était un homme pieux et énergique, mais en même temps très humble. Il était savant et lisait les Écritures dans les langues originales. Il reconnaissait leur souveraine autorité et la mettait au-dessus de celle du pape. C'était dans le temps où le pape Innocent III venait de se proclamer vicaire de Dieu sur la terre que Grosseteste écrivait. Suivre un pape rebelle à la volonté de Christ, c'est se séparer de Christ et de son corps. Et s'il vient un temps où tous suivent un pontife égaré, ce sera la grande apostasie. Les vrais chrétiens refuseront alors d'obéir et Rome sera la cause d'un grand schisme. Ne semble-t-il pas annoncer la réformation près de 3 siècles à l'avance? Grosseteste désirait sérieusement la réforme des abus qu'il voyait dans l'Église, mais la tâche était trop grande. Pour réformer, il aurait fallu se séparer et le temps n'était pas venu. 2 grands ordres de moines mendiants venaient de se former, les dominicains et les franciscains. D'abord, Grosseteste les avait favorisés, mais il vit bientôt quels abus il y avait parmi eux et le besoin qu'ils avaient aussi de réforme. Il s'en occupa et les serra de près. Alors, ils en appelèrent au pape. Celui-ci, qui était alors à Lyon, obligea l'évêque à se présenter devant lui. Mais le pape, gagné par l'argent que les moines lui avaient donné, décida en leur faveur contre Grosseteste. En vain, l'évêque rappela-t-il au pape ses lettres et ses promesses. Innocent IV lui répondit, « Nous sommes disposés à les favoriser. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? » Alors, on voit qu'ici, il s'appliquait le passage de Matthieu 20:15. Combien cette citation profane de l'Écriture dut choquer le pieux évêque. « Ô argent, dit-il en se courant, en soupirant, combien ton pouvoir est grand, surtout à la cour de Rome. N'est-il pas étrange que cette scène n'ait pas ouvert complètement les yeux de l'évêque sur l'apostasie de Rome? » Peu de temps après, le pape envoya en Angleterre pour remplir des places vacantes des prêtres italiens qui ne savaient pas un mot d'anglais. En même temps, il commanda à Grosseteste de donner à un jeune garçon, son neveu, un riche canonicat à la cathédrale de Lincoln. L'évêque refusa énergiquement en disant « Après le péché du diable, il n'y en a pas de plus opposé à l'Écriture que celui qui perd les âmes en leur donnant un ministère infidèle. Ce sont les mauvais pasteurs qui sont la cause de l'incrédulité, des hérésies et des désordres. Quand le premier des anges m'ordonnerait un tel péché, je devrais m'y refuser. Mon obéissance me défend d'obéir, c'est pourquoi je me rebelle. Son obéissance à la parole de Dieu lui défendait d'obéir au pape. Ce fut le grand principe de la Réformation. C'est celui qui doit nous guider, obéir à la parole de Dieu. » Le pape fut indigné. « Quel est ce vieux radoteur, dit-il, qui ose juger mes actions? Par Saint-Pierre et par Saint-Paul, si ma générosité ne me retenait pas, je ferais de lui un exemple et un spectacle à toute l'humanité. Le roi d'Angleterre n'est-il pas mon vassal et mon esclave? Et si je lui disais un mot, ne le jetterait-il pas en prison, chargé de honte et d'infamie? » Les cardinaux cherchèrent à l'apaiser. Ils lui firent remarquer que l'évêque était un saint homme et que sa lettre était vraie, et que le persécuté ferait appeler le mépris sur lui-même. Innocent ne les écouta pas, excommunia l'évêque et en nomma un autre à sa place. Mais comme les cardinaux le lui avaient dit, on ne tint nul compte de ses actes et Grosseteste conserva son siège épiscopal jusqu'à sa mort en 1253. Innocent voulut se venger sur les restes du pieux évêque et pensait à le faire exhumer. Lorsqu'une nuit, raconte le chroniqueur Mathieu Paris, Grosseteste lui apparut, s'approcha de son lit, le frappa de sa crosse et lui dit d'une voix terrible avec un regard menaçant, « Misérable, Le Seigneur ne permet pas que tu aies quelque pouvoir sur moi. Malheur à toi. » Le pape poussa un cri et resta à demi-mort. Dès lors, il n'eut plus une nuit tranquille. Il mourut un an après Grosseteste en faisant retentir son palais de ses gémissements. Quelle manière d'agir en vérité, traiter le roi d'Angleterre comme étant son vassal et son esclave. Mais c'était Grégoire VII. Depuis Grégoire VII, la prétention des chefs de l'Église de Rome de dominer sur le pouvoir temporel. Quant à Grosseteste, sur son lit de mort, il déclarait encore qu'une hérésie était une opinion conçue par des motifs charnels et contraire à l'Écriture, ouvertement enseignée et obstinément défendue. Tandis que Rome traite d'hérésie tout ce qui est contraire à ses enseignements, quand bien même ceux-ci sont en opposition avec la parole de Dieu. Grosseteste fut une lumière dans ce temps de ténèbres. Son attachement à la parole de Dieu et son opposition à l'erreur furent remarquables. Il était capable de montrer à d'autres le chemin du salut, et bien que nous ignorions jusqu'où s'étendit son influence, sa trace ne fut certainement pas perdue pour les siècles suivants. Dans la première partie du 14e siècle, vécu en Angleterre, un autre pieux prélat nommé Bradwardine. C'était un homme savant dans les sciences, particulièrement dans les mathématiques, mais il était aussi versé dans les Écritures. Il avait d'abord enseigné comme docteur à l'Université d'Oxford, puis avait accompagné comme chapelain le roi d'Angleterre, Édouard III, dans les guerres de celui-ci contre la France. Très humble et simple dans ses manières et dans sa vie, il avait d'abord été orgueilleux de sa science et par elle éloigné de la croix de Christ. Il se confiait dans sa raison pour connaître la vérité et pensait que l'homme, par sa propre force, pouvait faire quelque chose pour son salut. C'est ce que Pélage, autrefois, avait enseigné. Et sa doctrine, d'abord combattue, s'était glissée et prévalait dans l'Église romaine. Un jour, qu'à genoux dans l'Église, il écoutait la lecture des Saintes Écritures, il fut frappé par ce passage. « Ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde » en Romains 9, verset 16. Le salut ne vient ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu, de sa pure et souveraine grâce. Il ne voulut pas d'abord se soumettre à cette vérité qui humilie l'orgueil de l'homme en lui montrant qu'il ne peut rien et qu'il n'est rien. Mais il ne put pas résister à la puissance de sa parole, la parole de Dieu. Il fut converti à la grande et précieuse doctrine de la grâce qui seule sauve le pécheur. Il se mit aussitôt à enseigner ce qu'il avait reçu. Il s'occupait peu des traditions des hommes, mais il était pénétré de l'Écriture et s'affligeait de voir l'Église romaine mettre à la place de la pure grâce de Dieu pour le salut, les efforts et les œuvres de l'homme. Alors, comme autrefois, 450 prophètes de Baal s'élevaient contre un seul prophète de Dieu, disait-il, qu'ils sont nombreux ceux qui aujourd'hui combattent avec Pélage contre ta grâce gratuite. Ils prétendent non recevoir gratuitement la grâce, mais l'acheter. La volonté de l'homme doit précéder, disent-ils, et la tienne doit suivre. La leur est la maîtresse et la tienne la servante. Le monde presque entier marche dans l'erreur de Pélage. Lève-toi donc, Seigneur, et juge enfin ta cause. On voit que Bradwardine avait compris les paroles de l'apôtre Paul. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2:8. Et encore, étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ, Jésus, Romains 3, 24. Le Seigneur devait se lever en suscitant d'abord Wycliffe et ses disciples, et plus tard Luther et les autres réformateurs, dont la doctrine fondamentale serait, d'après les Écritures, le salut gratuit par la grâce et non acheté par des œuvres. Quant au pieux Bradwardine, qui avait combattu pour cette précieuse vérité, il venait d'être nommé archevêque de Canterbury lorsqu'il mourut en 1349. Occupons-nous maintenant de Wycliffe. Il était né en 1324 dans un village du comté de York nommé Wycliffe. C'est de là qu'il tira son nom. Il était Jean de Wycliffe. Il étudia à Oxford, au collège de Merton, et avait pu y entendre les enseignements de Bradwardine et en profiter. Pendant qu'il était encore étudiant, en 1345, une peste terrible ravagea l'Asie, l'Europe et sévit aussi fortement en Angleterre. Ce jugement de Dieu saisit profondément Wycliffe. Effrayé à la pensée de l'éternité, troublé dans son âme à la vue de ses péchés et dans l'attente du jugement, il demandait à Dieu ce qu'il fallait faire, et Dieu lui répondit par sa sainte parole. Il trouva la paix et ce qu'il avait appris. Il résolut de le faire connaître à d'autres, mais il commença avec prudence. En 1361, ayant été choisi comme chef ou directeur du collège de Balliol, il se mit à enseigner plus énergiquement la parole de Dieu et les doctrines de la foi. Dans la semaine, il les expliquait et les démontrait aux étudiants, et le dimanche, il les prêchait au peuple dans un langage simple. Sa piété et sa droiture, aussi bien que sa science, donnaient un grand poids à sa parole. Il accusait le clergé d'avoir mis de côté les Saintes Écritures et demandait que l'autorité de la parole fût établie dans l'Église. À cette époque aussi, Wycliffe s'élevait avec force contre les différents ordres des moines mendiants, et surtout contre les franciscains, tout dévoués au pape. Il les représente s'efforçant, par des fraudes pieuses, d'accaparer les richesses du pays en dépouillant riches et pauvres. « Chaque année, disait-il, Saint-François descend du ciel au purgatoire et délivre les âmes de tous ceux qui ont été ensevelis sous l'habit de son ordre. » Évidemment, pour obtenir une si grande faveur, il fallait payer. Nous avons là un exemple des mensonges qui se débitaient pour abuser de la crédulité du peuple. Ces moines, franciscains et autres, enlevaient les enfants à leurs parents et les enfermaient dans leur cloître. Ils faisaient semblant d'être pauvres et la besace sur l'épaule s'en allait mendiant d'un air piteux auprès des grands et des petits. Mais en même temps, ils vivaient dans des demeures somptueuses où ils amassaient des richesses, se vêtant d'habits précieux, passaient leur temps dans des festins. Remplis d'orgueil, les moindres d'entre eux se tenaient pour des seigneurs, et s'il y en avait des plus instruits, ils s'estimaient autant que des rois. Tandis qu'ils se divertissaient et s'enivraient à leur table richement servie, ils envoyaient n'importe qui prêcher à leur place des fables et des légendes pour amuser et dépouiller le peuple. Si quelque seigneur parlait de donner ses aumônes aux pauvres et non aux moines, ceux-ci poussaient des cris contre une telle impiété et menaçaient le pays de toutes sortes de calamités. C'est Wycliffe qui trace ainsi le tableau de la vie de ces moines mendiants et de la tyrannie qu'ils exerçaient sur la nation. Quoi d'étonnant ce qu'il les stigmatisa et déclara hautement leurs vices et les abus qu'ils se permettaient. Ils entraînaient à leur perte les âmes les âmes que lui, éclairé par la parole de Dieu, désirait sauver. Alors, les deux principaux ordres de moines mendiants étaient les franciscains et les dominicains. Le premier fut fondé par Saint François d'Assise, appelé ainsi du nom de sa ville natale. Après une jeunesse dissipée, il fut saisi un jour en entendant lire ces paroles de Jésus au jeune homme riche : « Va, vends ce que tu as et donne aux pauvres. » François se voit à la pauvreté, vêtu de haillons. Mendiant pour vivre, il se mit à prêcher la pauvreté et la pénitence. Il avait de la piété, mais sans connaissance, et en même temps, un esprit bizarre, rempli d'idées étranges. Il saluait les oiseaux et toutes les bêtes de la création, comme des frères et des sœurs, et leur adressait des discours. Son ascendant sur les foules était très grand, et ce qui l'augmentait encore, c'était les stigmates des cinq plaies de Jésus, mort que l'on prétendait avoir été imprimé sur son corps par un séraphin. Tels sont les mensonges et les illusions dont Satan se sert pour séduire les âmes. Un grand nombre de disciples se rassemblèrent autour de François et ils furent constitués en ordre par le pape Honorius III en 1223. Ils devinrent la milice la plus dévouée au pape, mais ils ne gardèrent pas longtemps l'austérité recommandée par leur fondateur. On a déjà parlé de Dominique et des Dominicains, qui étaient les principaux agents de l'Inquisition. En l'an 1365, Wycliffe fut appelé à s'occuper d'un autre sujet. Le pape Urbain V réclama du roi Édouard III le paiement annuel de 1000 marques que le roi Jean avait autrefois consenti à payer à Innocent III comme tribut féodal, en se reconnaissant son vassal. Le pape sommait Édouard de le reconnaître comme souverain légitime de l'Angleterre et, en cas de refus, le citerait à comparaître devant lui à Rome. Ses prétentions orgueilleuses soulevèrent une grande indignation en Angleterre. Wycliffe s'y opposa avec énergie et fit valoir tous les arguments qui militaient contre les exigences du pape. Il les fit connaître à plusieurs des membres du Parlement qui s'étaient assemblés pour examiner cette affaire. Le Parlement refusa de se rendre aux demandes du pape et déclara qu'aucun prince n'avait le droit d'aliéner la souveraineté du royaume sans le consentement du peuple. Le pape vit qu'il était inutile d'insister et s'efforça de conserver au moins son autorité spirituelle sur l'Angleterre. Une conférence se réunit à Bruges dans ce but. Wycliffe y fut envoyé avec d'autres commissaires. Nous ne nous arrêterons pas sur ce qui fut traité dans cette conférence. Nous dirons seulement que ce séjour à l'étranger fut d'un grand profit à Wycliffe. Ses yeux s'ouvrirent davantage à toute l'iniquité du système de la papauté et il fut confirmé dans le jugement qu'il avait déjà porté sur elle. À son retour en Angleterre, Wycliffe fut nommé recteur de l'église de Lutterworth et se mit à prêcher avec hardiesse ses doctrines pour la réformation de l'Église. L'Évangile, disait-il, est l'unique source de la religion. Le pontife romain n'est qu'un coupeur de bourse. Loin d'avoir le droit de réprimander le monde entier, il peut être légitimement repris par ses inférieurs et même par les laïcs. En appelant le pape un coupeur de bourse, il voulait dire qu'il cherchait à s'enrichir par toutes sortes de moyens, au détriment des princes et du peuple. Le langage et les prédications de Wycliffe alarmèrent le clergé et les partisans du pape. L'évêque de Londres, Courtenay, l'accusa d'hérésie et Wycliffe dut comparaître en 1377 devant une assemblée du clergé dans l'église de Saint-Paul. Un immense concours de peuple remplissait la cathédrale, foule composée en grande partie de fanatiques dévoués au pape. Wycliffe s'avança entre le duc de Lancaster, régent du royaume et ami du réformateur, et Lord Percy, maréchal d'Angleterre. Ils eurent beaucoup de peine à se frayer un passage à travers cette foule animée de sentiments hostiles et qui, si Wycliffe eût été seul, lui aurait certainement fait un mauvais parti. Enfin, ils arrivèrent devant le clergé présidé par Courtenay. Celui-ci ne fut pas peu surpris de l'avoir accusé se présenter sous la protection des deux plus puissants seigneurs du royaume. Il y eut, entre l'évêque et les deux lords, un échange de paroles aigres et le duc de Lancaster, dans un moment d'irritation, dit à quelqu'un de sa suite « Plutôt que de me soumettre à ce prêtre, je le tirerai par les cheveux à bas de sa chair. » Mais ce propos fut entendu par d'autres et un grand tumulte s'ensuivit. Les partisans de l'évêque se jetèrent sur les deux lords que leurs serviteurs et leurs amis défendirent. À grand-peine purent-ils échapper. Wycliffe était demeuré calme, on le renvoya en lui défendant de prêcher ses doctrines. Mais il ne pouvait se taire. Il continua à prêcher et à dénoncer le mal de la papauté. En ce moment, il y avait deux papes qui prétendaient chacun être le véritable chef de l'Église. Wycliffe disait que les deux formaient un seul Antichrist. Il fut de nouveau cité devant l'évêque, mais cette fois il vint seul, sans l'appui des grands seigneurs. On s'attendait à le voir dévoré, dit un historien, car il entrait dans la fosse aux lions. Mais comme autrefois Daniel et Paul, il fut délivré de la gueule du lion. À peine l'évêque avait-il commencé de procéder contre Wycliffe que Sir Clifford entra et, de la part de la reine mère, qui aimait Wycliffe, défendit de continuer. Le clergé fut confondu. Il n'avait aucun pouvoir pour résister. Wycliffe se retira en déposant une protestation. « J'ai le désir et l'intention, disait-il, par la grâce de Dieu, d'être un vrai chrétien et, aussi longtemps que je respirerai, de professer et de défendre la loi de Christ. » Dès lors, Wycliffe ne s'occupa plus autant de la politique que devait suivre l'Angleterre à l'égard du pape. Il se livra plus entièrement à l'œuvre de l'évangélisation dont la valeur s'accrut à ses yeux. Il désirait que l'Évangile fût annoncé jusque dans les moindres hameaux. Les moines parcouraient bien le pays en prêchant les absurdes légendes des saints. Mais pourquoi ne répandrait-on pas partout l'Évangile? Il s'adressa à ses disciples et leur dit, « Allez et prêchez, c'est l'œuvre la plus sublime. Mais n'imitez pas les prêtres que l'on voit après les sermons, assis dans les cabarets, à la table de jeu, ou perdant leur temps à la chasse. Quant à vous, après avoir prêché, visitez les malades, les vieillards, les pauvres, les aveugles et les infirmes, et secourez-les selon votre pouvoir. » Les évangélistes de Wycliffe, les pauvres prêtres, comme on les nommait, s'en allèrent donc le bâton à la main, pieds nus, vêtus d'une robe d'étoffe grossière, vivant d'aumônes et prêchant l'Évangile dans les champs, au bord des routes, dans les cimetières, près des villages, partout où ils trouvaient des auditeurs. Wycliffe leur avait enseigné que le salut ne vient ni des anges, ni des saints, mais qu'il est en Christ seul. Un ange, disait-il, n'aurait pu faire propitiation pour l'homme, car la nature qui a péché n'est pas celle des anges. Le médiateur devait être un homme, mais tout homme étant redevable à Dieu de tout ce qu'il était capable de faire, il fallait que le médiateur eût un mérite infini et fût en même temps Dieu. Le clergé régulier s'alarma et obtint une loi qui ordonnait à tout officier du roi de jeter en prison les prédicateurs. Aussi, dès que paraissait un pauvre prêtre pour prêcher, les moines qui se tenaient cachés pour les pieds allaient porter main forte afin de l'arrêter. Mais souvent, aussitôt que les sergents s'approchaient, le peuple se serrait autour du prédicateur et formait une forte barrière pour empêcher qu'il fût molesté. Ainsi, par le moyen de ces prédicateurs dévoués, l'Évangile se répandait de plus en plus et atteignait jusqu'aux endroits les plus reculés du pays. Le jour à venir révélera seul les fruits de ces semailles de la parole de Dieu. Outre son œuvre d'évangélisation, Wycliffe s'acquittait à Oxford de ses fonctions de professeur, mais il n'était pas d'une forte constitution. Ses travaux et les luttes qu'il avait soutenues l'avaient affaibli, et en 1379, il tomba dangereusement malade. On ne s'attendait pas à ce qu'il se relevât, et le parti du pape jubilait. Mais pour que son triomphe fût complet, il fallait obtenir de Wycliffe la rétractation de ce qu'il avait enseigné. Quatre représentants des ordres religieux, accompagnés de quatre aldermen, alors c'est comme des conseillers municipaux, se rendirent auprès du mourant. « Vous avez la mort sur les lèvres, lui dirent-ils, repentez-vous de vos fautes et rétractez en notre présence tout ce que vous avez dit contre nous à notre préjudice. » Wycliffe resta calme et serein et se tut pendant un moment. Les religieux étaient pleins d'espoir et attendait sa rétractation. Il demanda à son serviteur de le soulever sur son lit. Alors, rassemblant ses forces et fixant sur ses ennemis un regard perçant, il dit, « Je ne mourrai pas mais je vivrai et je déclarerai encore les turpitudes des moines. » Désappointés et confus, ses adversaires se retirèrent. Wycliffe se rétablit et vécut pour accomplir une œuvre plus grande que tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. L'œuvre que Wycliffe avait à cœur d'accomplir, c'était de donner aux Anglais la Bible dans leur propre langue. Il y avait bien eu, avant lui, quelques traductions en langue vulgaire de diverses portions des Écritures, mais ces volumes restaient cachés dans les bibliothèques des couvents. Il s'ensuivait que, sauf le clergé et peut-être quelques personnes qui pouvaient lire le latin, personne ne possédait une Bible et ne savait de son contenu que ce que les prêtres en disaient. Et cependant, depuis des siècles, l'Angleterre professait le christianisme. Il est vrai, comme nous l'avons vu, que défense était faite au peuple d'avoir et de lire les saints écrits en langue vulgaire. Mais le temps était venu où, malgré cette défense, la Bible allait être répandue parmi tous, savants et ignorants. Wycliffe ignorait le grec et l'hébreu. Il fut donc obligé de faire sa traduction sur la version latine appelée la Vulgate, mais cela valait mieux que de n'avoir pas de Bible du tout. Il travailla laborieusement à cette œuvre durant 10 années, aidé par quelques amis, et un an après la maladie dont nous avons parlé, en 1380, l'ouvrage fut terminé et publié sans notes ni commentaires. Quand nous disons « publié », il faut comprendre que l'on en fit des copies pour les vendre. L'imprimerie n'avait pas encore été inventée et l'on avait d'autres moyens d'avoir des exemplaires d'un ouvrage que le long et coûteux procédé de les écrire à la main. Les copistes se mirent diligemment à l'œuvre et bientôt des portions du saint volume furent mises en vente. Elles furent rapidement écoulées, ainsi que des copies du volume entier. L'accueil que reçut l'œuvre de Wycliffe dépassa son attente. C'était avec joie que nombre de personnes achetaient la parole de Dieu. Elles n'avaient jamais connu cette source de toute vérité, et maintenant elles pouvaient lire dans leur langue maternelle les merveilles de la révélation de Dieu donnée à l'homme. Une grande lumière, la lumière de Dieu, s'était levée dans les ténèbres de superstition et d'erreur qui couvraient le monde, et depuis lors, malgré les efforts de Satan et de ses agents pour l'éteindre, n'a pas cessé de briller dans ces contrées. L'ennemi se montra bientôt. Dès que Wycliffe eut publié sa traduction de la Bible, il fut assailli de tous côtés par les amis du pape. « C'est une hérésie, disaient les uns, de faire parler la Sainte Écriture en anglais. » D'autres disaient « Maître Wycliffe, en traduisant l'Évangile en anglais, l'a rendu plus accessible et plus compréhensible aux laïcs et même aux femmes qu'il ne l'avait jamais été jusqu'ici, aux clercs intelligents et lettrés. » À quoi d'autres ajoutaient, en affectant de craindre que l'Évangile ne fût aussi rendu méprisable, « La perle évangélique est foulée aux pieds par les pourceaux. » Quelques-uns se plaçaient sur un autre terrain et prétendaient mettre l'Église au-dessus des Écritures. Puisque l'Église, disait-il, a approuvé 4 évangiles, elle aurait pu tout aussi bien rejeter et en admettre d'autres. L'Église sanctionne ou condamne ce qu'elle veut. Croyez l'Église plus que l'Évangile. C'était là le grand point. L'Église de Rome voulait être l'autorité suprême. Mais ce n'est pas elle qui a donné les Écritures, c'est Dieu lui-même, et ce sont elles que nous devons croire. Wycliffe ne se laissait point émouvoir par les clameurs des prêtres et des moines. « Quand même le pape et tous les clercs disparaîtraient de la face de la terre, disait-il, notre foi ne défaudra point, car elle est fondée sur Jésus seul, notre maître et notre Dieu. » D'ailleurs, il n'était pas sans encouragement. Une copie des Évangiles avait pénétré jusque dans le palais, et Anne de Luxembourg, femme du roi Richard II, s'était mise à les lire diligemment. Elle les communiqua à Arundel, archevêque d'York, qui, frappé de voir une étrangère, une reine, lire des livres aussi vertueux, il voulait dire excellent, se mit à les étudier et blâma les prélats qui en négligeaient la lecture. À la Chambre des Lords, une motion fut faite par les partisans des prêtres de saisir tous les exemplaires et de les détruire. Mais le duc de Lancaster s'écria, « Sommes-nous donc la lie du genre humain pour que nous puissions pas posséder la loi de notre religion dans notre propre langue? » Cependant, l'œuvre progressait. Wycliffe lui-même fut amené à étudier plus profondément la Bible qu'il avait donnée au peuple. La doctrine de la messe, ce point fondamental de l'Église de Rome, attira son attention. C'était une des sources de gain pour le clergé et la base de son autorité sur le peuple. Faire descendre à sa parole le Dieu du ciel dans l'hostie consacrée, à quelle hauteur cela élevait le prêtre. Wycliffe, éclairé par la parole de Dieu, ne pouvait admettre qu'un homme eût le pouvoir de transformer un morceau de pain dans la chair, le sang et la divinité de Christ. L'hostie consacrée que nous voyons sur l'autel, disait-il, n'est pas Christ, ni une partie de Christ, mais elle est son signe efficace. Comment peux-tu, ô prêtre, qui n'est qu'un homme, créer ton créateur, ajoutait Wycliffe. Quoi, la plante qui croît dans les champs, cet épi que tu cueilles aujourd'hui, demain sera Dieu, ne pouvant faire les œuvres de Jésus, tu veux faire celui qui a accompli les œuvres. L'attaque de Wycliffe contre la doctrine de la transsubstantiation effraya ses amis. Le duc de Lancaster, qui jusqu'alors l'avait soutenu, cessa de le défendre, après l'avoir exhorté, supplié et même lui avoir ordonné de se taire sur ce sujet. Mais Wycliffe ne pouvait cacher la lumière qu'il avait reçue de Dieu. Ses ennemis trouvèrent là une bonne occasion pour chercher à le perdre. Courtenay avait été promu à l'archevêché de Canterbury. Il se hâta de convoquer un synode dans le but de condamner Wycliffe. On se réunit en mai 1382 et l'on allait procéder à la condamnation de celui qu'on tenait pour hérétique lorsqu'un violent tremblement de terre se fit sentir à Londres et dans une partie de l'Angleterre. Les prélats, effrayés, crurent voir dans ce phénomène une marque de la désapprobation de Dieu et hésitait à prononcer la sentence. Mais l'abbé l'archevêque sut se faire de l'événement une arme en sa faveur. « Ne savez-vous pas, dit-il, que les vapeurs nuisibles qui prennent feu dans le sein de la terre et produisent ces phénomènes qui vous effraient perdent leur force lorsqu'elles s'échappent? De la même manière, en rejetant l'hérétique de notre communion, nous mettrons fin aux convulsions de l'Église. » Rassurés, les évêques prononcèrent la condamnation de Wycliffe après avoir entendu la lecture des 10 propositions qu'on disait être de lui et qui furent déclarées hérétiques. L'archevêque pressa le roi d'approuver la décision du synode. « Si nous permettons à cet hérétique de faire continuellement appel aux passions du peuple, dit-il au roi, notre destruction est inévitable. Il faut réduire au silence ces lollards, ces chanteurs de psaumes. » Le mot lollard veut dire des chanteurs de psaumes. Le roi donna des ordres pour que l'on jetât dans les prisons de l'État ceux qui soutiendraient les propositions condamnées. Un à un, ses amis les plus dévoués abandonnaient Wycliffe, mais il ne perdit pas courage. Il se consola en disant « La doctrine de l'Évangile ne périra jamais. » Wycliffe aurait dû en rester là et continuer paisiblement son œuvre, mais il crut devoir en appeler à la Chambre des communes et présenta une pétition où l'on disait entre autres « Puisque Jésus-Christ a répandu son sang pour affranchir l'Église, je demande son affranchissement. Je demande que chacun puisse sortir de ses sombres murailles où règne une loi tyrannique et embrasser une vie simple et paisible sous la voûte du ciel. Je demande que les pauvres habitants de nos villes et de nos campagnes ne soient pas contraints de fournir à un prêtre mondain, souvent vicieux et hérétique, de quoi satisfaire son ostentation, sa gourmandise et son impudicité, de quoi acheter un beau cheval, des selles magnifiques, des brides avec des clochettes retentissantes, de riches vêtements, des fourrures précieuses, tandis que le pauvre peuple voit ses veuves, ses femmes et ses enfants mourir de faim. Nous voyons par ces lignes quels abus criants étaient tolérés et quel joug pesait alors sur le peuple. La Chambre des communes vit que son autorité avait été méconnue, puisque les appels du roi n'avaient pas reçu son assentiment, et elle ordonna le rappel. Alors Courtenay fut déconcerté, mais déterminé à ne pas laisser échapper Wycliffe, il se rendit à Oxford, rassembla les chefs de l'Église et somma Wycliffe de paraître devant lui en ayant soin de laisser les portes ouvertes aux laïcs et aux étudiants, afin que l'humiliation du vieux champion de la vérité fût complète et publique. Wycliffe était affaibli par l'âge et ses nombreux travaux, mais il avait une âme forte dans un corps chétif et n'avait jamais craint de paraître devant un homme. Il se rendit à la sommation, mais l'affaire se termina d'une manière à laquelle Courtenay était loin de s'attendre. Arrêtant sur l'archevêque ce regard perçant et assuré qui avait fait fuir les moines, il accusa le clergé romain d'être semblable au prêtre de Baal et lui reprocha de répandre l'erreur et de fermer les yeux au mal afin de vendre ses messes et de remplir sa bourse. Puis en terminant, il s'écria « La vérité vaincra » et il se retira sans qu'aucun de ses ennemis n'osa dire un mot ou l'arrêter. Il se retira à Lutterworth. Wycliffe n'était pas à l'abri des attaques de ses ennemis. Il vivait paisiblement au milieu de ses paroissiens et de ses livres, étudiant la vérité et l'annonçant autour de lui, lorsqu'il reçut du pape un bref, le sommant de paraître devant lui à Rome. Cette sommation lui serait sans doute arrivée plus tôt s'il n'eût avait eu à ce temps-là deux papes rivaux, trop occupés à s'insulter et à se maudire l'un l'autre pour avoir le temps de penser à un aussi chétif personnage que Wycliffe. L'Écosse, la France et d'autres pays reconnaissaient le pape Clément VII, tandis que l'Angleterre, l'Italie et les autres États tenaient pour le pape Urbain VI. Comme celui-ci avait en Angleterre un grand nombre de chauds partisans, ils insistaient auprès de lui sur le danger que les doctrines de Wycliffe faisaient courir à la cause de l'Église romaine. De là, le bref du pape. Wycliffe crut que ses infirmités croissantes suffisaient pour le justifier de ne pas se rendre à l'appel du pape, mais il résolut de lui écrire et de lui faire connaître quel était le véritable chef de l'Église. Dans sa lettre, en premier lieu, il exalte l'Évangile, puis il déclare que le pape lui-même est tenu d'y obéir. « Je crois, dit-il, que l'Évangile de Christ est le corps complet de la révélation de Dieu. Je crois que Christ, qui nous l'a donné, est lui-même vrai Dieu et vrai homme, et qu'ainsi cette révélation est au-dessus de tout. Je crois que l'évêque de Rome est obligé plus que tout autre à s'y soumettre, car la grandeur parmi les disciples de Christ ne consiste pas en dignité et en honneur mondain, mais à suivre de près et fidèlement le Christ dans sa vie et dans ses actes. De là, je conclus que nul homme fidèle ne doit suivre le pape, ni aucun des hommes saints, si ce n'est quand ils veulent suivre Jésus-Christ. Il faut qu'à l'exemple de Christ, le pape remette à l'État ses pouvoirs temporels et engage son clergé à faire de même. Urbain VI était trop occupé de sa lutte avec Clément pour se mettre davantage en peine de Wycliffe, de sorte que celui-ci put continuer ses travaux sans être molesté. C'est alors qu'il écrivit son « Trialogue ». Ce sont des entretiens entre trois personnages symboliques, la vérité, le mensonge et l'intelligence. Le premier propose des questions, le second fait des objections et le troisième établit la sainte doctrine. Une des grandes vérités que Wycliffe affirme est l'autorité suprême des Écritures. « L'Église est tombée, dit l'un des interlocuteurs, parce que elle a abandonné l'Évangile et lui a préféré les lois du pape. Quand il y aurait 100 papes à la fois dans le monde et que tous les moines de la terre fussent transformés en autant de cardinaux, il ne faudrait pas leur accorder aucune confiance en matière de foi s'ils ne s'appuient pas sur les saintes Écritures. » Voici encore quelques-unes des conclusions de Wycliffe. L'autorité des saintes Écritures, qui sont la loi du Christ, surpasse infiniment celle de toute autre Écriture. L'Écriture est la règle de la vérité et doit être la règle de la réforme. Il faut rejeter toute doctrine et tout précepte qui ne repose pas sur cette base. Croire que l'homme peut quelque chose dans l'œuvre de la régénération est la grande hérésie de Rome, et de cette erreur est venue la ruine de l'Église. La conversion procède de la grâce de Dieu seul. Le système qui l'attribue en partie à l'homme et en partie à Dieu est pire que celui de Pélage. Christ est tout dans le christianisme. Quiconque abandonne cette source, toujours prête à communiquer la vie, et se tourne vers les eaux troubles et croupissantes, est un insensé. La foi est un don de Dieu. Elle exclut tout mérite et doit bannir de l'âme toute crainte. La seule chose nécessaire dans la vie chrétienne et dans la sainte n'est pas un vain formalisme et des rites superstitieux, mais la communion avec Christ selon la puissance de la vie spirituelle. Le peuple chrétien doit se soumettre non à la parole d'un prêtre, mais à la parole de Dieu. La vraie Église est l'assemblée des justes pour lesquels le Christ a répandu son sang. Tant que Christ est dans le ciel, l'Église a en lui le meilleur pape. Il est possible qu'un pape soit condamné au dernier jour pour ses péchés. Telles sont les vérités que Wycliffe, enseigné par le Saint-Esprit, tira des Écritures. Il n'eut pas d'autre maître. Il passa tranquillement ses derniers jours. Menacé comme il l'était de toutes parts, il pouvait bien s'attendre à mourir comme martyr. Annoncez, disait-il, la parole de Christ à d'orgueilleux prélats, et le martyr ne vous manquera pas. Quoi, vivre et me taire? Jamais. Que le coup tombe, je l'attends. Mais Dieu lui donna de mourir en paix. Le 29 décembre 1384, il était dans la chapelle de Lutherworth, debout devant l'autel, au milieu de ses paroissiens. Au moment où il élevait le pain de la scène, il fut frappé de paralysie. Transporté dans sa demeure, il vécut encore 48 heures et rendit l'esprit le dernier jour de l'année. Ainsi passa celui à qui Dieu avait permis d'accomplir une grande œuvre en Angleterre, celle de donner la Bible au peuple, d'envoyer prêcher l'Évangile et de dénoncer les erreurs de Rome. Depuis ce moment, la lumière divine ne s'éteignit plus dans ce pays et elle se répandit dans d'autres contrées. Ceux qui suivirent sa doctrine furent appelés Wycliffites ou, plus communément, Lollards. Rome les poursuivait de sa haine et plusieurs subirent le martyre. Être un disciple de Wycliffe, adhérer à ses enseignements, suffisait pour être déclaré hérétique et poursuivi comme tel par l'Église de Rome. Celle-ci manifesta combien elle avait senti l'attaque dirigée contre elle par l'œuvre de Wycliffe. Ayant pu atteindre le réformateur durant sa vie, elle se vengea sur lui après sa mort. Le Concile de Constance, tenu en 1415, ordonna que ses restes furent brûlés. La sentence fut exécutée en 1428 et les cendres furent jetées dans un ruisseau voisin. Mais la vérité que Wycliffe avait mise en lumière ne pouvait être brûlée. Elle était semée dans les cœurs et portait du fruit pour la vie éternelle. Peu avant sa fin, Wycliffe prononça ces paroles remarquables. Quelques frères, des moines que Dieu daignera enseigner, ayant abandonné leur infidélité, reviendront librement à la primitive religion du Christ et alors édifieront l'Église comme Paul. Ne semble-t-il pas avoir annoncé d'avance le réformateur Luther? Alors, à la page 20, vous avez les applications. J'en ai mis trois. Les Saintes Écritures sont un don de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui les lire dans notre langue maternelle. Rendons grâce à Dieu d'avoir donné à l'Église des serviteurs de la trempe de Wycliffe. Nous leur devons énormément. Deuxième application, Wycliffe n'hésita pas à risquer sa propre vie pour promouvoir son attachement à la Sainte Bible. Son courage est remarquable et devrait nous inspirer dans notre guerre contre l'erreur, le mensonge, l'apostasie et toute fausse représentation de la glorieuse personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Prions le Seigneur de nous donner un courage pareil. Troisième application, apprenons comment l'ennemi s'acharne toujours avec beaucoup de zèle pour clouer le bec à tous ceux qui sont fidèles au Seigneur. Toute victoire contre Satan, ses anges et ses serviteurs, qu'ils soient conscients ou non, ne s'obtient que par une intense vie de prière. Que notre glorieux, grand et glorieux Seigneur soit béni de nous avoir donné les Saintes Écritures dans notre langue.